Phase 2.
Aujourd'hui, nous sommes à Paris, juste à côté du Panthéon. On arrive au domicile de notre invité, dans une toute petite rue.
Deuxième étage.
Merci.
La conversation.
Bonjour.
Bonjour. Merci.
Ça va ?
Enchanté.
Oh, c'est bien.
Minute d'avance.
Non, c'est bien. J'étais suisse.
Voilà. La conversation.
Bertrand Bichot.
Alexandre Lemierre.
Une conversation réussie, c'est une conversation où nous échangeons des idées différentes et on tombe souvent d'accord en souriant. C'est bien.
En son temps et en son pays natal, les deux n'étant pas si lointains de nous aujourd'hui, il fut professeur de philosophie, mais il tourna cette page pour se consacrer à l'écriture. Car sa jeunesse en fit un poète, son imagination un romancier, son histoire un écrivain. Et point des moindres, puisqu'on dit de lui qu'il est l'auteur francophone le plus traduit dans le monde. Saviez-vous que Tahar Ben Jelloun est aussi docteur en psychopathologie sociale ? Ce membre de l'Académie Goncourt, depuis 2008, le reçut lui-même le fameux prix Goncourt en 87 pour son livre « La nuit sacrée ». À vrai dire, c'est plutôt une sacrée nuit sans fin qu'il nous raconte dans son tout dernier roman « L'insomnie ». Un livre qui nous plonge dans les nuits blanches de son scénariste de narrateur des nuits blanches, le poussant à se transformer en personnage de roman noir. Car l'unique solution trouvée par cet homme pour s'oublier dans les bras de Morphée est tout simplement d'assassiner son prochain. Autrement dit, commettre un meurtre pour tuer son insomnie. Imposer le plus éternel des sommeils lui offre la meilleure des nuits. De quoi songer à ses songes avec un nouveau regard. Une histoire à dormir debout, me direz-vous ? Pas du tout, plutôt à en rire de tout son long. Puisque c'est non sans humour, noir comme la nuit, que ce tueur, par obligation, confie, je cite, qu'étrangement, être devenu un assassin ne l'empêche point de dormir. Et la mécanique de son principe fait en sorte que plus la personne est importante, plus est important le nombre de nuits de sommeil profond gagnées. Est-ce suite à une longue nuit d'insomnie qu'une telle idée lui est apparue ? Voilà bien l'une des questions qui nous ont donné envie de lui proposer cette conversation. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, vous écoutez La Conversation avec aujourd'hui Tahar Ben Jelloun, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous.
Vous êtes les bienvenus, j'espère que vous êtes bien installés.
Très bien. De mon côté, je suis dans un grand canapé en cuir noir. Alexandre est à côté dans un joli fauteuil couleur tabac et vous êtes en face de moi. C'est votre fauteuil habituel dans lequel vous êtes là ?
Oui, c'est là où je lis.
C'est le plus usé, ça se voit.
Oui, c'est vrai.
On est dans votre salon ici ?
Oui, c'est le salon, le bureau, la maison, c'est tout quoi.
Vous faites beaucoup de choses dans cette pièce-là ?
Oui, j'ai un atelier pour la peinture, mais j'y vais jamais. J'y dépose les toiles, mais là, parfois, je peins ici, parce qu'il y a beaucoup de lumière dans ce salon.
Il y a plusieurs expositions, elle est un peu triangulaire presque, cette pièce. Elle donne sur combien de rues ?
Il y a quatre fenêtres, et il y a toujours la lumière quand il fait beau à Paris, bien sûr.
Vous êtes dans ce quartier, 5e arrondissement de Paris, depuis longtemps ?
Depuis une dizaine d'années, oui.
Par choix, vous vouliez être ici ?
Par hasard aussi. Ouais. Mais moi, j'aime bien le 5e. J'aime bien. C'est en plein centre. Et puis, il y a plein d'étudiants. Et c'est classé, on verra. Bon, ils ne vont pas le défigurer.
Sur vos murs, beaucoup de toiles, certaines de vous. Je reconnais certaines. Tout est de vous ?
Non, pas tout de
pas
moi.
Pas
non,
tout,
non,
j'ai l'impression.
Non.
En effet.
La plupart sont de moi. Oui. Enfin, je les accroche pour un peu... pour les rectifier parfois.
Vous peignez encore ?
Oui.
Ouais. Vous passez beaucoup de temps ?
Non, c'est un plaisir de temps en temps quand j'alterne entre l'écriture et la peinture. Et là, je prépare une exposition importante à Bologne le 30 mars prochain. Donc, je dois livrer des petits formats, enfin des 50 sur 50. Et je travaille là-dessus en ce moment.
Vos lecteurs sont vos admirateurs de peinture ? C'est le même public ou pas du tout ?
Je ne sais pas, mais j'ai eu beaucoup de réactions quand j'ai fait l'exposition à l'Institut du Monde Arabe l'année dernière, qui avait duré quand même 4 mois. Et il y a eu beaucoup de commentaires de lecteurs, oui, de lectrices. Ce sont les femmes qui lisent, surtout les lectrices, qui trouvent une espèce de... Notre aspect de ma littérature, c'est de la littérature, elle est grave, et ma peinture, elle est heureuse, elle est lumineuse, disons.
Exactement. C'est l'impression qu'on a.
Elle est optimiste.
Il y a souvent de la souffrance, vous parlez d'injustice dans vos, dans vos livres, et c'est très coloré, là, on les voit.
Il faut pas accabler les gens, parce que déjà, quand ils lisent, bon, ils sont un peu tristes, mais après, je leur donne à voir des tableaux où ils peuvent espérer le printemps éternel.
Du coup, est-ce que le travail de peintre est plus agréable et plus dans le plaisir que l'écriture ?
Non, le plaisir est différent, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, je ne fais jamais rien par obligation. D'ailleurs, ça passe pas. C'est par exemple, je suis obligé de faire une toile ou un texte. Si je n'ai pas envie de le faire, ça sort pas, ça vient pas. Donc, pas la peine d'insister. Donc, je le fais toujours avec plaisir. Et je pense pas avoir fait un jour quelque chose contre mon gré. C'est très très rare, ça m'arrive jamais ça.
Pas de commandes avec vous.
Non, les commandes c'est autre chose. Ça peut m'inciter, ça peut m'exciter, ça peut m'intéresser beaucoup. Moi je me souviens quand je voyais Roland Barthes, il me disait lui que il aurait adoré que quelqu'un lui commande un roman parce que lui son rêve c'était de devenir romancier. Je lui dis mais Monsieur Barthes, un roman ça se commande pas. Il m'a dit, ben si, c'est comme une rédaction un peu longue. Et c'est vrai que...
C'est bizarre parce que du coup, on sentait chez lui une envie de passer à l'écriture de romans, mais c'est comme s'il fallait qu'il y ait une justification,
qu'il avait besoin qu'on le rassure. Et d'ailleurs, ses derniers textes, qui sont un peu son journal et tout, c'est un peu des essais de romanesque. C'est comme... le fragment d'un discours amoureux, parce que j'ai toujours sous les yeux.
Là, vous indiquez, j'adore ce livre. De la pièce.
Et c'est un peu une série de petites nouvelles, de petits romans même, qui parlent évidemment de tout ce qui touche à l'amour.
On va écouter une séquence sonore tout de suite. C'est votre portrait vu par Alexandre Lemierre.
La ville de Fès, au Maroc, demeure un secret bien gardé. Beaucoup plus belle que Marrakech, elle ne jouit cependant pas de la même notoriété. Peut-être le riche album de Bruno Barbet que publie l'Imprimerie Nationale fera-t-il connaître à un plus grand nombre cette cité du Moyen Atlas peuplée de 600 000 habitants et qui est classée patrimoine de l'humanité.
Aïe, 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 aïe.
Je crois que c'était une première au Maroc, à Rabat.
La philosophie au Maroc, c'est malheureusement une matière et une pratique qui n'est pas assez répandue. C'est pour ça que ce genre d'événement est très important.
Quelques jours avant l'Algérie, le Maroc a connu un profond remaniement intérieur. Le roi Hassan II a décrété l'état d'exception, pris les pleins pouvoirs, mis le Parlement en sommeil, annoncé une réforme de la Constitution.
C'est au cimetière juif de Casablanca qu'a été enterré aujourd'hui Abraham Serfati. Ses funérailles ont réuni dans l'émotion famille et amis du défunt.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Quand j'ai visité, donc j'ai dit oui à la maison de Norvège.
C'est très sociable, tu rencontres beaucoup de gens qui sont très sympathiques, qui ont en plus la même culture que toi parfois, donc ça rend les choses un peu plus faciles parfois aussi de rentrer en contact avec les gens.
Et cela dit, il est vrai que le François Bott qui écrit et le François Bott dont on raconte la vie, c'est pas tout à fait les deux mêmes personnes.
Ah, c'est pas les mêmes personnes. Mmh. Je me suis aperçu après coup, après avoir écrit le livre, que tout ce qui était de l'ordre du client était autobiographique.
Les gens que j'ai connus, enfin... Pas mal de ceux que j'ai publiés meurent les uns après les autres. Alors j'ai publié des jeunes aussi, heureusement, qui me survivront.
Chaque année, l'Arabie Saoudite accueille plusieurs millions de pèlerins musulmans venus des quatre coins du monde pour le Hajj. Le Hajj, c'est le pèlerinage dans la ville sainte de la Mecque, que tout croyant musulman est tenu d'accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens. C'est l'un des 5 piliers de l'islam.
Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tifauge où vécut Gilles de Rais, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse.
Radioscopie,
Tahar Ben Jelloun,
Jacques Chancel.
Pourquoi le soleil s'acharne sur nous? Pourquoi la lune nous trahit et nous renvoie chaque fois au tribunal de première instance? Pourquoi la mer ne rejette pas nos cadavres? Pourquoi les nuages viennent nous protéger? Pourquoi les étoiles pâlissent quand elles s'arrêtent au-dessus de nos têtes? Pourquoi la police tire sur les manifestants?
Pierre Viançon-Ponté, vous êtes journaliste politique, enfin, surtout connu pour ça, et tout à coup vous vous mettez à la chronique, alors pourquoi?
Je ne sais pas si c'est moi qui ai changé ou si c'est la politique qui a changé, parce que, vous savez, l'idée, par exemple, il y a seulement 3 ans que le Parlement français, dans sa solennité...
Le 11 avril 1978. Bonjour Saïd, vous avez un moment pour discuter avec moi?
J'ai tout le temps. Personne ne m'attend.
Le prix Goncourt 1987 a été attribué au 6e tour de scrutin à Tahar Ben Jelloun pour La Nuit Sacrée.
Qu'est-ce qu'un écrivain? C'est celui qui relit et qui recueille, et qui recueille et qui relit.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça?
Pourquoi c'est comme ça?
C'est où?
C'est qui, lui?
Un jour, une question. C'est quoi le racisme?
Serait-il possible de rencontrer et d'interviewer les officiers rebelles actuellement répétés? Arrêtez.
Je dois vous répondre que, en principe, ces officiers auraient dû être passés immédiatement par les armes. Je crains que vous n'ayez pas le temps de le faire. Car je crains que demain soir, à cette heure-ci, nous soit exécuté après qu'il nous ait donné les renseignements nécessaires.
Qu'est-ce qu'un écrivain? C'est celui qui relit et qui recueille, et qui recueille et qui relit.
Quelques pages de votre vie.
Oula, c'est très bien condensé. J'ai reconnu la plupart des choses.
Racontez-nous un peu.
Oui, c'est un peu... Oui, c'est vrai. Oh là là, ce Maroc, ces années de plans, ces instabilités, ces coups d'État.
Naissance à Fès, donc.
Oui, naissance à Fès, après Tanger.
Études de philosophie.
Études de philosophie à Rabat. Séjour militaire dans un camp de redressement à Al-Hajjeber Moumou. La rencontre avec les futurs putschistes qui vont faire le premier coup d'État. Une rencontre involontaire, bien sûr. Et puis les belles rencontres. François Bott, mon premier ami en France. Ensuite, Maurice Nadeau qui m'a accueilli. Jean Genet qui m'a adopté.
Alors, Bott, il vous a permis de publier votre premier article dans Le Monde.
Oui.
Nadeau, il travaillait chez De Noël.
Il a publié mon premier roman.
Et puis, Jean Genet a assisté
à ma soutenance de thèse, oui.
Le sujet, c'était...
C'était la plus haute des solitudes, c'est-à-dire les problèmes affectifs et sexuels des travailleurs immigrés en France. Des travailleurs maghrébins. Ouais.
On a entendu des extraits de pièces de théâtre aussi, vous avez écrit.
Oui, Chronique d'une solitude. Et puis l'entretien avec Saïd Hamadi, ouvrier algérien, qui était monté par Vitesse, qui est comme à Chaillot. C'était vraiment une très belle chose. C'est magnifique. Et puis, il y a eu Radioscopie, c'est fou.
Oui, Jacques Chancel.
Oh là là.
Vous avez été prof de philo?
Pendant 2 ans et demi, parce que la troisième année, j'ai pas pu enseigner, parce qu'il y avait la police tabassait les élèves, y compris dans la cour du lycée. Et c'est l'année où j'ai décidé de quitter l'enseignement et le Maroc, parce que ils ont, soi-disant pour empêcher que les élèves réfléchissent, et ils avaient décidé d'arabiser l'enseignement de la philosophie, c'est-à-dire d'enseigner uniquement la pensée islamique. Or, moi, j'ai dit que je n'étais pas formé pour ça, et je suis parti. J'avais un contrat avec l'État, et ça a été pour moi une délivrance, parce qu'en venant en France, j'ai enfin ouvert les yeux pour vivre et écrire, surtout, et publier.
Est-ce que la philosophie vous accompagne encore, la pensée philosophique et votre formation?
Ça a été fondamental pour moi parce que j'ai eu une prof de philo au lycée qui était exceptionnelle, une dame extraordinaire. Ensuite, j'ai eu deux ou trois profs à la fac à Rabat. On avait le programme de Bordeaux, enfin c'était le même programme qu'en France. Et j'ai vraiment, je trouve, entre la poésie et la philosophie, il y a énormément de parenté. Et quand j'ai découvert Nietzsche, c'était pour moi l'idéal parce que c'était un grand poète et un grand philosophe. Mais en même temps, j'avais beaucoup de plaisir et de joie à lire Spinoza, et qui m'accompagne toujours. Ou alors évidemment toute la philosophie platonicienne avec évidemment Socrate. Aristote, c'est plus ardu, mais j'aime beaucoup revenir à la philosophie parce que et je trouve qu'on devrait même pouvoir enseigner la philosophie à partir du collège. Il ne faut pas attendre la terminale, parce qu'on peut déjà donner quelques concepts à des jeunes gens pour apprendre à monter la pensée, apprendre à vraiment fabriquer une pensée cohérente et intéressante.
Tahar Ben Jelloun, votre nouveau livre paru chez Gallimard s'appelle L'insomnie. Votre personnage principal est scénariste. Et à un moment, il fait croire qu'il a l'accord de Martin Scorsese pour réaliser l'un de ses films et pour justifier qu'il est en contact avec lui. Il dit être passé par un groupe de musique marocain, les Nas
El-Riwan.
Redites-le-moi, parce que la prononciation...
Nas El-Riwan.
Et l'anecdote est vraie, parce que Scorsese adore ce groupe.
Oui, je sais, oui.
Il a même dit que c'était les Rolling Stones de l'Afrique, et il a même acheté les droits d'un morceau pour la BO de son film La Dernière Tentation du Christ. Je vous propose qu'on écoute ce morceau. C'est Yassa.
Ah oui, c'est formidable.
Souvent au Maroc, il est...
Scorsese?
Oui.
Ah ouais, il a ses habitudes là-bas.
J'ai rencontré à New York une fois. Il part tellement vite, moi j'ai un anglais très 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 mauvais.
Ah bon?
J'arrivais pas à le suivre.
Ah ouais.
Mais c'est un très grand cinéaste. J'aime beaucoup.
Vous parlez beaucoup, on en parlera tout à l'heure, mais beaucoup, beaucoup de cinéma dans votre livre.
Ah, moi, je suis...
C'est incroyable, à chaque page, il y a un titre de film quasiment.
Je suis un cinéaste empêché.
Ah oui?
Non, mais...
Vous auriez pu l'être?
Non, mais...
Aimé, en tout cas?
C'est... J'adore le cinéma, mais je suis triste au sens parce que le cinéma est pratiquement terminé.
Ouais.
On revient au feuilleton du 19e siècle.
Tahar Ben Jelloun, à un moment dans votre nouveau roman L'Insomnie, vous racontez que votre narrateur, le scénariste, adore regarder passer des hommes et des femmes dont il ignore tout. Est-ce que ça vous arrive aussi avec toutes les fenêtres que vous avez dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons, de vous mettre à la fenêtre et de regarder?
Ah oui, beaucoup, mais même, peut-être pas à Paris, mais à Tanger, je mets toujours dans un café qui s'appelle Café de Paris, qui est central, qui est place de France à Tanger. Et je regarde passer les gens et je devine un peu leurs histoires. Et comme je fais ça très souvent dans la semaine, c'est le même personnage qui repasse. Et je
m'invente. C'est des sources d'inspiration?
Non, je m'invente un peu un monde comme ça et je dis qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et parfois j'assiste à des petites disputes ou des petites rencontres comme ça. C'est très amusant de regarder les gens parce que on est en train de. Un romancier est un observateur. Il est tout le temps en train de. Il est aux aguets, il regarde. Il faut qu'il voit ce qui se passe. Tout pour lui servir pour faire un roman, bien sûr.
Vous parlez de la création d'ailleurs, puisque votre personnage est scénariste, et à un moment il a une réflexion sur les idées, comment trouver les idées, il dit « Ne croyez pas qu'elles tombent comme ça du ciel, je pars à leur recherche tous les jours, je fouille dans ma tête et j'en tire ce dont j'ai besoin pour écrire. » À quel moment on sait qu'on tient une bonne idée, une idée qui mérite un point de départ?
Ça c'est
au moins
une intuition.
Ouais.
Et puis j'ai dit ça pour qu'on arrête de me parler d'inspiration, l'inspiration n'existe pas. Comme quelqu'un disait, c'est la transpiration qui existe sur le travail. Ben oui, parce que si on est là, on attend que ça tombe, ça vient pas. Évidemment, quand on commence à écrire, alors on se joue le film dans la tête, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Ce personnage, qu'est-ce qui va lui arriver? Je fais pas de plan exprès pour que le matin, quand je me lève, je dis, tiens, je vais travailler avec mon personnage, je sais pas ce qu'il va m'apporter. Et c'est à chaque fois, il faut...
Il n'y a pas le plan du livre? À Pardon? Aucun moment, vous définissez le plan du livre?
Peut-être au milieu, je commence à voir un peu les choses mieux.
Vous ne connaissez pas forcément la fin du livre quand vous le débutez?
Non, par exemple, pour celui-là, je savais comment il allait finir.
Oui, ce qui est, enfin, oui. Ce qu'on comprend un peu qui est une logique.
D'habitude, je ne sais pas comment ça va se finir. Bon, mais ce qui est extraordinaire avec l'écriture, ce qui n'est pas toujours facile avec le cinéma, c'est que, une fois que le premier jet est posé, eh bien, on le retravaille. On revient dessus. Et puis, moi, je travaille avec mon éditeur. Je lui dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, etc.
Vous êtes très ouvert à ça, vous?
Ah oui, beaucoup. J'insiste même. J'ai un éditeur qui s'appelle Thomas Simonet, qui est chez Gallimard, avec qui j'ai un contrat très, très clair. C'est vérité. Pas de complaisance, pas de compliments. Je n'ai rien à foutre des compliments avant. Je les veux après.
Donc, vous avez une grande confiance en lui?
Ben oui, parce qu'on s'entend très bien. Et je sais quand il me dit quelque chose, je sais qu'il a raison parce que j'ai mis un an et demi à écrire le livre. Donc, instantanément, il y a un personnage, j'ai perdu son nom, j'ai nommé autrement. Il me dit, mais ça va pas, il n'y a pas le même personnage. Des trucs comme ça. Ouais. Bon, ça arrive parce qu'on oublie. Non, mais c'est des petites choses. Et en même temps, c'est parfois des remarques de fond sur la construction, sur l'intelligence du texte, parce que il faut respecter le lecteur, il faut lui donner un texte bien ficelé, bien précis, où il n'y a pas d'incohérence.
J'imagine que tous les écrivains n'ont pas cette humilité ou cette ouverture d'esprit d'accepter, si ce n'est la critique, en tout cas des suggestions.
Moi, c'est la leçon que m'a apprise Jean Genet. Et ben, il dit, quand tu commences à écrire, n'oublie pas que quand le lecteur va... Tu prends la main d'un lecteur et si tu l'emmerdes, il te lâche. Il n'a aucune raison de rester avec toi, il peut aller ailleurs. Donc, pense toujours au lecteur et pense que le lecteur est plus important que toi.
Votre narrateur est atteint d'insomnie. À un moment, il dit « Je ne supporte pas de ne rien faire. Or, en dormant, je n'écris pas, je n'imagine pas, je ne crée rien. De ce point de vue, je considère un peu le sommeil comme une perte de temps. » Mais d'un autre côté, quelques pages plus tard, il dit « Ne pas dormir, c'est être privé de rêve. Or, j'ai besoin du rêve pour alimenter mon imaginaire. Les rêves sont drôles et parfois instructifs, surtout si on les passe au crible d'une grille d'analyse un peu fine. » Vous avez plutôt tendance à aimer votre sommeil, à faire ami-ami avec
lui?
Quand
je dors... profondément, je suis heureux après.
Après.
Oui, ça m'arrive rarement. mais j'ai un sommeil entrecoupé. Ça vient du traumatisme de l'incarcération dans le camp militaire où on nous avait parqués dans une chambrée pour 20, on était 90. Donc c'est une façon un peu de... J'arrive pas moi à dormir avec toute cette promiscuité et ça me poursuit 50 ans après. Mais bon, mais je me débrouille, je prends pas de somnifères, j'essaie de ne pas tomber dans la chimie.
La période du meilleur sommeil de votre personnage, c'est lors d'une vie amoureuse qui était très très épanouie, à sa pensée que le bonheur du jour permet la sérénité la nuit. C'est un peu ce que vous venez de dire il y a quelques minutes, à savoir si on a vécu des choses traumatisantes dans la vraie vie, ça peut perturber, vous le dites, 50 ans après le sommeil. Donc il y a un vrai lien entre la qualité de la vraie vie et la qualité de la vie fictive de la nuit, onirique.
C'est très curieux, c'est pas systématique. D'ailleurs, l'idée du livre est venue le soir où ma mère est décédée, et j'ai pensé que je n'allais pas dormir cette nuit-là. Or, quand je m'étais occupé d'elle pendant ces trois dernières années, où elle souffrait beaucoup, quand elle est morte, cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Et c'est là où est venue l'idée de l'insomnia qui hâte la mort de certains. J'ai pas hâté la mort de ma mère réellement, mais quand elle est morte, c'était pour moi une délivrance, pour elle et pour moi. Et j'ai pensé qu'il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de mon aide pour partir. En fait, c'est pas un tueur à 100%. Ça peut être un bienfaiteur de l'humanité, parce que il y a deux catégories de personnes qu'il tue. Les personnes dont il hâte la mort parce que ils ont besoin de partir. Ça, il milite pour la mourir d'indignité, quoi. Enfin, d'euthanasie. Accepter. La deuxième catégorie, c'est lorsque son copain lui dit, il faut quand même se débarrasser de quelques salauds. Or, nous avons tous envie un jour de nous débarrasser d'un tortionnaire, d'un sale pédophile, d'un escroc, de quelqu'un qui a fait du mal. On a toujours, un peu comme dans les westerns de John Ford, l'envie de vengeance, l'envie d'arriver à nous débarrasser des vrais crapus qui nous pourrissent la vie. Et c'est le rêve de tout le monde, ça, je pense. Mais on le fait pas, bien sûr, parce que nous sommes civilisés.
Et heureusement, peut-être.
Ben heureusement, bien sûr, parce que je dois aussi pourrir la vie de quelques cerfs, alors il voudrait aussi méfier, m'assassiner.
Votre narrateur décide d'aller voir un psychanalyste à un moment pour tenter de soigner son problème d'insomnie, et le psy lui dit « Mais vous, vous êtes trop lucide pour une analyse constructive. Écrivez plutôt sur ce sujet, ce serait une excellente thérapie. » Vous avez été psychothérapeute?
J'étais un psychothérapeute sauvage, parce que... On m'avait pris pour dans un centre de hospitalier du jour pour m'occuper des maghrébins, parce que personne ne savait ce qu'ils disaient. Mais j'ai fait moi-même une psychothérapie quelques années, enfin éparpillée dans le temps. Et je préfère la psychothérapie que la psychanalyse, parce que la psychothérapie, c'est une rencontre face à face avec le psychiatre, et une analyse plus active et plus concrète.
Et vous étiez trop lucide, ça peut exister des patients trop lucides pour...
C'est ce que me disait mon psychiatre, qui était psychanalyste aussi, il me disait, je serais inquiet le jour où vous ne pourrez plus écrire. Tant que vous écrivez, vous êtes sauvé. Je veux très bien.
Qu'est-ce qu'il entendait par là?
Ben, la création, c'est-à-dire que le fait de créer, il faut posséder, maîtriser un certain nombre d'éléments intellectuels, et si on les a, c'est qu'on se porte bien.
Votre nouveau livre s'appelle L'insomnie. Voici une évocation sonore de ce livre. Ça raconte pas son histoire, mais en tout cas, on tourne autour de son atmosphère, des thématiques évoquées dans ce roman.
Ce n'est pas une histoire de fou, c'est une histoire diabolique.
Hier, Marlène a passé 5 heures à dessiner. Elle a passé presque 108 heures sans dormir. La fatigue s'accentue et désactive son cerveau rationnel.
c'est extra. Un maudit blues qui niche la nuit comme un satin double en marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue vient mouiller. C'est extra.
Effectivement, j'ai des problèmes de conscience. Vous croyez que c'est ce qui m'empêche de dormir?
Ça se pourrait.
Bonjour, je suis Alfred Hitchcock. Vous avez une question pour moi?
Vous avez quelque chose à me prescrire?
Un médicament? Pour votre conscience? Bien sûr que non.
Les gens ont tort de penser que je n'aime pas les femmes. Je n'aime pas les hommes non plus.
Non! Vous croyez que ça peut exister, un crime parfait?
Yes, absolutely. On paper, that is. But I doubt if I could carry it out.
Oh?
Diabolique.
Why not? Well, because in stories, things usually turn out the way the author wants them to, and in real life, they don't.
Ah! Non! Ah!
Une baignoire? Diabolique. Un costume d'homme? Diabolique. Diabolique. Signorita, votre pied nu se voit.
Qui êtes-vous?
C'est moi qui dirige les films, qui en écrit l'histoire, et mon nom est Harry Dole.
Vous avez déjà mis en scène Jane Harlow, Carole Lombard.
Cendrillon est parti. Elle est idiote, cette histoire. Un homme qui possède une fortune et la science ne connaîtra jamais un moment de bonheur.
Oui, c'est idiot, ce genre d'histoire.
En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec.
Mais moi, les dingues, je les soigne.
On va lui faire une ordonnance.
Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Monsieur Hitchcock, je voulais vous demander si vous étiez un homme heureux.
Je suis un homme heureux quand je ne fais pas de cinéma.
On a écouté un extrait du film Diabolique, vous le citez dans votre livre, la thématique de l'insomnie au cinéma, cet extra. La voix d'Alfred Hitchcock, dont on a entendu un extrait du Crime était presque parfait, Ava Gardner dans La Comtesse aux pieds nus, des dialogues de Michel Audiard, vous racontez combien, en tout cas le scénariste aime certains dialoguistes dont Michel Audiard, et puis Bob Marley, No One No Cry, chanson que, j'allais dire, on entend à la fin de votre livre dans les dernières lignes, il y a un chauffeur de bus qui chante cette chanson. C'est incroyable comme le cinéma est présent dans votre livre, il y a quasiment un titre de film à chaque page, vous parlez, et puis des genres très différents, vous évoquez Scarface avec Pacino, beaucoup de Hitchcock, Vertigo, L'Inconnu du Nord Express, La Corde, donc on le disait, La Comtesse aux pieds nus, la science-fiction avec Le Soleil Vert, un film assez récent, Nos âmes la nuit, avec Redford et Jane Fonda, Un jour sans fin, le classique, la comédie, Les Fraises Sauvages du Bergman, des westerns, Règlement de compte à Hockey Corral, Le Train sifflera à trois fois. Vous faites dire un moment à une actrice, personnage de votre livre, le cinéma d'aujourd'hui est bavard, sans subtilité, avec des dialogues ramassés dans des bistrots, sans intelligence. Le cinéma est fini, il est mort, c'est pour cela que les gens préfèrent de plus en plus les séries. Est-ce que vous êtes aussi sévère qu'elle? Tout à l'heure, en off, on en a déjà un peu parlé,
Je trouve qu'on est en train de tuer le cinéma, mais malheureusement, là, pour faire une bonne série, il faut vraiment, vraiment beaucoup de talent, ce qui fait que je vois beaucoup, beaucoup de séries, moi aussi. Mais la vérité, je vois un film par jour classique. Je reviens à mes vieilles amours parce que finalement, avant que vous veniez, j'ai regardé l'ellipse de d'Antonioni qui fait 2h05 et c'est une plastique extraordinaire. C'est Delon et Monica Vitti dans un espace fabuleux. Enfin, c'est plus possible de faire des films comme ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, on veut faire de la sociologie, on veut un peu faire de la politique, témoigner, faire des. On voit par exemple les films qui marchent, un peu des films à thèse.
Pourquoi c'est plus possible de faire des films comme celui-ci?
Parce que le public a été déjà formaté par les grosses productions américaines, qui fait que les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas avoir cette espèce de passion cinéphilique que nous avions quand on avait 20 ans. On allait se précipiter au dernier film de Truffaut, de Godard ou de Hitchcock ou de...
Mais c'est un problème de public ou un problème de créateur, de réalisateur?
Un problème de créateur, parce qu'il n'y a plus de créateurs de ce type. Je vois par exemple la plupart des films français, je les vois et c'est d'un ennui permanent. Parce que
c'est à qui?
C'est gentil, mais ça... Ils sont à la surface des choses. Vous prenez Les Fraises Sauvages
de Bergman.
Vous avez une scène qui dure 6 minutes, 7 minutes. Elle est extraordinaire. Un rêve de ce vieux professeur qui va à la retraite et tout ça, et qui voit la mort. Mais ça, jamais aujourd'hui un jeune n'est capable d'avoir ces idées-là et de réaliser cette séquence. Non, aujourd'hui le cinéma, il est factice, il est lié à beaucoup de choses très superficielles.
C'est étrange parce qu'on continue. Là, on parle donc des jeunes réalisateurs. Pourtant, ils étudient Bergman. On vient de fêter les 100 ans de Bergman. Il y a un succès immense autour et les réalisateurs plutôt de films d'auteur se revendiquent de lui. En tout cas, vous une admiration pour lui.
Il s'agit pas de refaire du Bergman. C'est pas ça. Aujourd'hui. On pourrait imaginer
peut-être sa démarche.
On pourrait imaginer quelqu'un qui a son exigence. Peut-être qu'il faut attendre pour voir, mais alors évidemment mon personnage scénariste, il est un producteur un peu fou comme d'habitude, mais lui évidemment il aurait rêvé que Scorsese s'intéresse à son scénario et fasse ce film là, bien sûr. Mais il sait très bien que c'est pas faisable parce que comment est-ce possible qu'un jeune scénariste de Tanger du Maroc va avoir accès aux plus grands réalisateurs et producteurs américains pour qu'ils fassent une histoire d'un type qui ne dort pas, qui tue. C'est improbable.
D'ailleurs, ça fera un très bon film, votre livre.
Il y a déjà deux maisons de production qui m'ont demandé les droits. Alors j'ai dit, on va voir. Ça peut faire un bon film, mais bon, encore faut-il tomber sur le bon réalisateur.
À un moment, vous parlez d'un roman de Rob Grillet.
Ah, et ça c'est une anecdote vraie.
Oui, j'imagine.
Elle est vraie.
Vous voulez nous la raconter?
Oui, parce que à un certain moment, je voulais absolument découvrir le secret du nouveau roman parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens s'intéressaient à ça. Et j'ai acheté les livres de Rob Grillet entre autres, et j'avais je crois que c'était les gommes.
Ouais, gommes.
Et à chaque fois, je commençais à lire et paf, au bout de la deuxième page, boum, je tombais, je dormais. Et j'ai trouvé que c'était un bon somnifère qui n'était pas dangereux. Et un jour, je rencontre Alain Aubrier, qui était pas un ami, mais je connaissais un petit peu. Et je lui ai raconté l'anecdote. Il me dit, ah, c'est formidable. Donc, mon livre sert à quelque chose dans moi. Il était très conscient de ce qu'il faisait. Il n'était pas dupe. Il savait très bien qu'il se foutait la gueule des gens.
En revanche, vous écrivez, lire Rimbaud m'a toujours apaisé. Donc, à chaque auteur son effet.
Oui,
vos livres, ils ont quel effet sur votre public? On vous dit
sur
quoi?
Mon public.
Oui, ça sert à quoi vos livres?
Ah, oh là là, j'en sais rien. Voilà, ça c'est. Non, les gens me. Ah là là, les gens me parlent beaucoup de certains livres qui les ont aidés dans certains moments de leur vie. Et ce qui est extraordinaire avec moi, j'ai travaillé dès le début à aller vers les librairies tout le temps. Et j'ai constitué comme ça un public extraordinaire qui change et bien sûr qui me suit. Et le fait d'avoir fait des livres pédagogiques a fait qu'aujourd'hui, dans des signatures, je vois arriver une jeune belle femme, 30 ans, 40 ans, comme ça, elle me dit, ah, j'ai commencé à vous lire, grâce à ma maman qui m'a offert le Racine expliqué à ma fille, et là je l'ai offert à ma fille. Je me dis un peu, je suis un peu transgénérationnel, et grâce aux livres pédagogiques et aux livres aussi que j'ai fait pour les enfants, je maintiens un contact avec toute la famille, ce qui fait que j'ai des lecteurs, des lectrices, beaucoup de lectrices, mais je me déplace beaucoup, je vais vers les gens, je leur parle, ils sentent que je suis accessible, je suis présent, et je ne fais pas que écrire un livre et puis passer à autre chose. J'accompagne le livre, je vais bien sûr dans les salons du livre, dans les foires. Là, je pars à Casablanca pour la foire du livre. Et je dois avoir des écoles. Je vais beaucoup dans les écoles, dans les lycées, bien sûr. Ça, c'est un travail que je fais volontairement parce que je trouve qu'un écrivain, un artiste aujourd'hui, il est son devoir d'aller voir les jeunes, de leur donner un autre son qu'ils écoutent, autre chose que ce que les médias, les réseaux sociaux leur donnent. C'est important d'aller voir parce que c'est avec les enfants qu'on peut semer quelques graines pour qu'ils aient une vision un peu plus originale, un peu plus personnelle de la vie.
À un moment, votre personnage décide d'aller s'isoler quelques jours dans une maison à la montagne. Il vient de tuer une personne et il a pu cumuler quelques points crédit sommeil, il appelle ça comme ça. Il dit je vais pouvoir écouter religieusement l'intégrale de John Coltrane.
Ah.
Alors on va pas écouter l'intégrale.
L'intégrale.
On va quand même écouter un tout petit morceau. Voici John Coltrane in the Sentimental Mood.
Bonjour, je suis Tahar Ben Jeloun dans la conversation.
La deuxième discussion que j'ai eue, peut-être la plus belle, c'est une discussion avec une femme que j'aime, que j'ai aimé beaucoup et avec qui j'avais j'ai une sorte de complicité intellectuelle et spirituelle extraordinaire. Et ça, c'est excessivement rare, parce que ça se place à un niveau très profond, d'une très belle spiritualité, une complicité spirituelle extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose que je connais avec un peu, que j'ai connu un petit peu tardivement, mais que j'apprécie particulièrement.
Tahar Ben Jelloun, nous sommes toujours dans votre salon, dans votre domicile parisien. Il fait un peu plus sombre, peut-être que la nuit commence à tomber sur Paris.
Oui, oui, elle tombe vite. Hein.
Il y a ces toiles dont certaines sont de vous. S'il y en avait une particulièrement à retenir, votre préférée, votre toile préférée dans cette pièce, ce serait laquelle?
Je sais pas.
Vous retournez.
J'aime bien celle-là, la porte.
Expliquez-nous.
Dans la nuit. Oui, beaucoup de bleu. Je travaille beaucoup le bleu et j'ai fait une série sur ces portes qui sont des portes de marabouts, c'est-à-dire les tombeaux des saints, qui sont pour moi l'ouverture sur la lumière, sur la spiritualité. Et j'essaie de, à travers cette série de portes, de donner une perspective de plusieurs, parce qu'il y a plusieurs. Il y a le bleu, il y a parfois le jaune, il y a une série à une dizaine, et chaque marabout est d'une couleur différente. Et ça, c'est très marocain, parce que les Marocains, ils aiment beaucoup les saints, ils vont les prier sur eux, ils vont se recueillir devant eux et tout ça. Et parfois, ils les peignent, soit en bleu, soit en blanc, soit en beige, soit en vert. Et c'est, ça revient, quand j'y pense, je le fais à ma façon, moi aussi. Et c'est des portes ouvertes sur la lumière et l'espérance.
Et pourquoi cette toile-là parmi la série de portes? Parce c'est que la seule donc de nuit, si on veut
c'est
dire.
C'est la nuit, parce que c'est malgré tout, j'aime la nuit, même si elle me fait des misères. Parce que la nuit, je travaille, mon esprit travaille. Et je trouve que l'esthétique nocturne est beaucoup plus belle que l'esthétique diurne. Par exemple, là, j'ai fait il y a 2 ans une série de peintures sur la ville de Matera, qui est en Italie, près des Pouilles. Et les toiles les plus réussies sont les toiles de nuit. Et parce que j'ai saisi certaines choses dans cette ville extraordinaire et je l'ai rendue à ma façon et ça a beaucoup touché les gens.
Au tout début de votre livre « L'insomnie », votre narrateur écrit « Je n'inventais plus les histoires, je me mettais à les vivre et en profiter comme par enchantement j'étais passé de l'écriture à la vie. Si vous aviez la possibilité de vivre dans la réalité la vie d'un personnage de roman ?»
Oh là là, je préfère vivre la mienne.
Hein. Ah oui, c'est une belle réponse, ça prouve que vous êtes un homme heureux.
Ouais, non mais j'ai jamais voulu jouer à ce jeu. Non, je trouve que...
Mais parfois on peut rêver, on lit un livre, on se dit « Ah,
rêver,
j'aimerais
non,
y être mais, à sa place un peu ».
Non, parce que...
Par exemple, moi j'aimerais pas du tout être à la place de votre narrateur.
Non, j'aimerais pas être à la place de votre narrateur, mais non, moi je suis bien à ma place et je pense que je sais au moins à quoi m'en tenir. Avec mon personnage, je sais pas où il va m'emmener là.
Et vous savez où vous allez?
Un peu. Avec quand même à 71 ans, je peux commencer à savoir où je vais quand même.
Vous allez où?
Ah ben je vais vers la station terminus.
Oui, mais avant.
Vous savez, j'y vais sereinement et tranquillement, et je trouve que c'est la chose qu'il faut faire parce que c'est pas, il faut pas dramatiser de toute façon. J'y vais en écrivant, en peignant, en rencontrant des amis, en vivant. J'y vais pas en étant atterré et déjà sous terre. Non, je suis vivant et heureux. Donc j'y vais vers ça. Et
sans peur?
Bien sûr qu'il y a la peur. Mais la peur, moi, c'est pas la peur de la fin. Là, c'est la peur de l'avant-fin. C'est la maladie qui me fait peur. La souffrance, la douleur. Ça, je supporterai pas. Mais finir, bon, on est venu pour finir. Donc, la seule peur, c'est la douleur physique, la maladie.
La plus belle conversation que vous ayez eue au cours de votre vie, Tahar Ben Jelloun, c'était avec qui et quand?
J'ai eu une conversation extraordinaire avec Jean Genet, parce qu'on est resté amis une dizaine d'années jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'était des conversations assez dures à soutenir parce qu'il était très, 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 très intransigeant. Ça, d'un point de vue intellectuel. Et puis, la deuxième discussion que j'ai eue, peut-être la plus belle, c'est une discussion avec une femme que j'aimais beaucoup et qui, avec qui j'ai une sorte de complicité intellectuelle et spirituelle extraordinaire. Et ça, c'est excessivement rare, parce que ça se place à un niveau très profond, d'une très belle spiritualité, une complicité spirituelle extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose que je connais avec un peu, que j'ai connu un petit peu tardivement, mais que j'apprécie particulièrement.
Merci beaucoup pour cette conversation.
Ben merci à vous, c'est très sympathique de venir. On aurait pu continuer comme ça.
Mais avec plaisir.
En John Coltrane.
On reviendra et reparler de cinéma. Je sens qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Vous écrivez un moment dans votre livre « Pourquoi dormir alors qu'on peut faire tant de choses ? Faire de la musique, écrire des histoires, dessiner des arbres à l'infini, cuisiner des plats avec des épices venues d'ailleurs, faire l'amour, écouter une symphonie de malheur. » On va se quitter avec quelques notes de la symphonie numéro 5 de Gustave Mahler en do dièse mineur, l'Adagietto.
Formidable. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté la conversation aujourd'hui avec Tahar Benjelloun. Merci à Alexandre Lemierre pour la réalisation de cette émission. Pour écouter ce programme, vous pouvez vous rendre sur le www.rts.ch/laconversation. Bertrand Bichot au micro, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, je vous laisse avec cette pensée d'Oscar Wilde. La conversation devrait aborder tous les sujets sans jamais se fixer sur un seul d'entre eux.
Yvan Hichère, amoureux fou de la vie et du jazz. Je fais des émissions sur le jazz parce que je pense que cette musique est porteuse d'espoir, de liberté et de compréhension de l'un à l'autre. Jazz le samedi est un peu plus régional puisque nous accueillons un groupe chaque semaine. Et le dimanche, ce sont des productions, des concerts qu'on n'entend nulle part ailleurs. Jazz, c'est un peu un one-man show, puisqu'à la fois on produit, on présente, on anime, c'est bien sûr une passion. Jazz, c'est le samedi à 18h sur Espace 2, c'est également dans La Note Bleue, dimanche soir entre 20h et 22h.
Il est 13h, vous écoutez Espace 2, voici le journal de la mi-journée.
Bonjour. Il y a risque de pénurie alimentaire. Le signal d'alarme lancé aujourd'hui par l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Tous les jours, des espèces ou des plantes qui ne pourront jamais être retrouvées disparaissent. La faute au manque de diversité dans les cultures. La FAO appelle les gouvernements à se saisir du problème. L'ex-sergent